une fois pour toutes. Une émission proposée par la Concertation des Églises Chrétiennes de Liège.
Amis auditeurs, bonjour, au micro Vincent Tonon. Je suis toujours très heureux de vous retrouver et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir encore une fois le pasteur Jacques Ostetter qui va partager avec nous un sujet un peu particulier. Quand on a évoqué la préparation de cette émission, il a évoqué le titre « Rencontrer le Christ ». Alors, Jacques Ostetter, bonjour.
Bonjour.
Et puis, directement, on est dans le sujet « Rencontrer le Christ ». Waouh, quel titre, ça c'est...
Mais c'est l'essentiel, je pense, pour le chrétien. C'est cette idée que l'on rencontre le Christ. Rencontrer le Christ, bien sûr, c'est une image, mais c'est une image qui est parlante. Sans rencontre, il n'y a pas de christianisme qui existe. En effet, le personnage central est bien un homme historique, Jésus de Nazareth, dont on connaît relativement beaucoup et peu de choses à la fois, puisque les premiers témoignages le concernant ne sont pas directement de sa main, mais ce sont des personnes qui l'ont côtoyé de près et qui vont essayer de nous dire justement leur rencontre et leur cheminement avec un personnage particulier.
Alors oui, là je réagis tout de suite parce que moi je me disais, rencontrer le Christ, on parlait de nous.
Bien entendu que l'on parle de nous, parce que c'est cela qui est assez extraordinaire dans le christianisme, c'est qu'on confond volontiers les choses et que quand on entend extérieurement ce que l'on dit des chrétiens, eh bien les chrétiens ne se reconnaissent pas dans cette façon de les décrire. Quand on parle du terme de foi, par exemple, certains pensent que la foi, c'est adhérer à un certain nombre de dogmes, voire même de principes. Mais il ne s'agit pas de cela. Ce qui est extraordinaire dans le christianisme, c'est que le chrétien vit justement cette rencontre, j'allais presque dire au quotidien, avec le Christ. C'est-à-dire qu'il y a cette idée qu'à travers le témoignage des Écritures judéo-chrétiennes, eh bien, se dégage un cheminement, et c'est à ce cheminement que l'on adhère bien davantage qu'à un certain nombre de concepts. Donc il ne faut pas confondre la foi avec une croyance. La foi serait même tout sauf une croyance. La foi, c'est le pari de Pascal, mais la foi, c'est justement aussi cette confiance que l'on met dans ce message des prophètes et de Jésus de Nazareth. Mais ce n'est pas un message qui est arrêté dans le temps, et c'est pour cela que je vous rejoins sur ce point. Effectivement, pour le chrétien, il y a une réalité de la rencontre avec Jésus de Nazareth en tant que Christ aujourd'hui. Sans cela, eh bien, nous serons des passéistes, alors que je pense que justement le christianisme, eh bien, s'inscrit dans une ligne du temps qui doit nous conduire vers un avenir meilleur avec tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté.
J'aime beaucoup l'idée de la rencontre avec le Christ aujourd'hui, mais ça évoque en moi un souvenir d'une étude biblique où l'on était en train de discuter autour d'un texte de la Bible et on avait abordé justement cette question de la rencontre avec le Christ. Et quelqu'un dans le groupe faisait remarquer, oui, mais c'est quand même très abstrait. Comment est-ce qu'on peut rencontrer le Christ aujourd'hui? Ça veut dire quoi, ça, rencontrer Christ aujourd'hui? En tout cas, moi, je lis des choses dans l'Évangile et tout, mais le rencontrer. Et c'est toute la difficulté. Et beaucoup de personnes se sentent mal à l'aise par rapport à ça. On dit, la foi, ce n'est pas adhérer à des dogmes, mais pour beaucoup de personnes, la foi, c'est d'abord cela. Parce que justement...
Oui. J'ai eu la chance de suivre à l'Université libre de Bruxelles les cours d'un professeur de philosophie remarquable qui s'appelle Chaim Perelman et qui nous disait, en parlant du dialogue entre les chrétiens et les athées ou agnostiques, que le chrétien aurait toujours un avantage dans son dialogue, c'est de pouvoir dire « Dieu existe parce que je l'expérimente ». Et je pense que c'est extrêmement important cela. Je ne peux pas évidemment dire « Dieu n'existe pas » parce que je ne l'expérimente pas. Mais par contre, si vous avez en vous cette réalité de Dieu qui s'inscrit, évidemment, personne ne pourra vous l'enlever. Mais c'est aussi intransmissible, parce que, à juste titre, c'est quelque chose que vous pouvez ressentir, mais qui ne se base pas sur une réalité scientifique. Donc nous sommes là dans une sorte d'impasse, dans un certain sens. Mais ce qui m'intéresse, et là, bien sûr, je m'inscris dans une démarche protestante, ce qui m'intéresse dans votre question, c'est de voir comment un certain nombre de personnes peuvent l'exprimer au niveau des textes qui sont mes textes de référence, donc les textes des Écritures judéo-chrétiennes, de ce que nous appelons la Bible. Et il me vient à l'esprit, puisque vous parliez d'une étude biblique, il me vient à l'esprit un texte, c'est la rencontre de Jésus avec les 10 lépreux. Alors voilà des personnes qui sont exclues de toute société, qui sont vraiment mises au banc de la société parce que c'était une maladie contagieuse, sans doute pas la lèpre que l'on considère comme telle aujourd'hui, mais en tout cas une maladie invalidante qui vous mettait au banc. Et que va-t-il faire? Il va leur dire, eh bien, suivez la loi mosaïque, suivez la loi juive et allez vous présenter pour votre purification auprès des sacrificateurs. Les 10, d'après le texte, nous pouvons le prendre de façon imagée ou de façon réelle, peu importe. Ce qui est important, c'est de voir que les 10 personnes se rendent auprès des sacrificateurs, un seul en route, un moment, prend conscience que sa guérison, puisque le texte nous dit qu'ils sont guéris de leur maladie, un seul prend conscience que cela change fondamentalement sa vie, que cette rencontre avec Jésus a changé quelque chose de beaucoup plus important même que sa santé physique, sa santé spirituelle qui est en cause, il revient vers Jésus. Donc il ne va pas auprès des sacrificateurs parce qu'il a trouvé plus grand que les sacrificateurs, plus grand que la loi. Et cette rencontre, c'est la rencontre qui le sauve, c'est la rencontre avec Jésus.
Et l'image est d'ailleurs belle parce qu'il fait demi-tour et il revient.
Absolument, il fait demi-tour et il revient. Mais je vous ferai remarquer aussi que cela provient en fait d'un double mouvement.
C'est presque l'image d'une conversion, ça.
C'est sûrement l'image d'une conversion, sûrement. C'est d'ailleurs le terme métanoéo qui est souvent très très mal traduit parce que nous le traduisons par pénitence ou par des termes qui sont vraiment très différents de se retourner et se retourner dans le bon sens dans ce cadre-là. Mais j'insiste sur le fait que quand il y a rencontre, il faut que deux personnes soient acteurs de cette rencontre. Si Jésus n'avait pas été sur les chemins, s'il s'était contenté de rester un rabbin dans une contrée reculée, je dirais, de ces provinces romaines, eh bien, on n'entendrait plus parler depuis très longtemps. Mais ce qui le rend admirable, c'est qu'il va se coltiner aux gens. Il va quitter son pays, rencontrer les Samaritains, la femme samaritaine, bien sûr, un des textes les plus connus des Écritures. Il va parler en parabole, mais il va surtout essayer de rencontrer les personnes où elles se trouvent, sur leur théâtre de vie. Et bien sûr, il ne va pas imposer sa présence. Donc c'est une invitation à le suivre, mais ce n'est pas une imposition à le suivre, sauf peut-être pour ses plus proches disciples, où là, il y a un appel plus pressant, sans doute, dans un certain nombre de cas.
Je pense que cette image de Jésus qui va à la rencontre, qui sort, qui circule, qui voyage pour annoncer le royaume aussi, pose beaucoup de questions et doit en tout cas interpeller, cela doit interpeller les chrétiens aujourd'hui. Mais nous allons aborder ce point-là après une petite pause musicale. Vous écoutez RCF, la radio dans l'âme. Au micro, Vincent Tonon et Jacques Ostetter, nous évoquons tous les deux une notion, rencontrer le Christ aujourd'hui. Alors juste avant la petite pause musicale, nous évoquions le fait que ce qui est remarquable dans la démarche de Jésus, c'est qu'il ne s'est pas contenté d'être un rabbin. S'il était resté perdu dans une contrée ou là où il était né ou là où il officiait, eh bien personne n'aurait entendu parler de lui. Ce qui fait sa particularité aussi, c'est qu'il circulait sur les chemins, il annonçait le royaume un peu partout, il rencontrait les gens, il allait se coltiner en quelque sorte avec ses contemporains et cela pose automatiquement la question de la rencontre avec le Christ aujourd'hui. Comment rencontrer le Christ aujourd'hui?
Alors il y a bien sûr un texte qui me revient à l'esprit et qui est ce sommaire de la loi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien sûr, si l'on me pose aujourd'hui la question, est-ce que vous avez rencontré Dieu en face, je vous répondrai immédiatement non. Et j'en suis heureux parce que la foi doit rester justement de ce domaine du pari que j'évoquais, un pari en confiance. Bien sûr aussi, et c'est important de le signaler, quand on parle de rencontrer, aujourd'hui nous ne pouvons le faire que via les personnes qui traversent avec nous les mêmes chemins de vie. Donc je vais pouvoir identifier Dieu, selon moi, dans toute personne qui est une personne de bonne volonté, une personne aimante, qui vit selon les mêmes valeurs que celles que l'on peut retrouver dans les évangiles. Et il y a notamment une prière remarquable qui est attribuée à Patrick, donc le fondateur, selon certains, de l'Irlande, qui dit à peu près ceci, eh bien, « Manifestez-moi, Jésus, dans votre regard, dans votre sourire, dans votre parole, et je serai à mon tour pour vous également, Christ, par ma parole, par mon regard, par mes actes et mes pensées. » Et je pense que là, nous avons encore aujourd'hui toute une série de personnes qui peuvent témoigner de leur rencontre avec le Christ simplement par les actions qu'ils posent. Je pense à un Albert Schweitzer, je pense à un Martin Luther King. Vous savez, Albert Schweitzer, c'est un brillant organiste. Il va choisir de réidentifier sa vie après une rencontre qu'il qualifie aussi de rencontre personnelle avec Jésus, et il va ouvrir cet hôpital à Lambaréné en Afrique. Il va être arrêté par les autorités françaises pendant la guerre 14-18. Cela ne l'empêchera jamais de continuer parce qu'il y a, au point de départ de sa démarche, une rencontre existentielle forte.
Alors là, ça pose quand même une question, parce que je crois qu'un certain nombre d'auditeurs et beaucoup de chrétiens ou de croyants sont troublés par cette dimension et parfois même frustrés par cette dimension. Dans le cadre d'une rencontre, c'est de l'ordre du don. On peut croiser des personnes, on peut même écouter, parler des personnes, mais les rencontrer véritablement en profondeur et qu'il y ait vraiment un échange qui se fasse, ça c'est de l'ordre du don. Or, manifestement, tout le monde ne bénéficie pas de ce don-là.
Alors, tout le monde ne bénéficie pas de ce don-là, et pourtant, vous avez raison, c'est vraiment au centre de cette rencontre. Qui dit rencontre dit réciprocité de la rencontre. Ce qui me frappe, mais dès les premières pages des Écritures judéo-chrétiennes, donc déjà dans l'Ancien Testament, c'est cette possibilité qu'a l'homme de changer la volonté de Dieu. Entendez par là que Abraham, quand il prie pour Sodome et Gomorrhe, texte également extrêmement connu des Écritures, eh bien, il va changer la volonté de Dieu en insistant sur le fait que s'il y a quelques justes, eh bien, on ne peut pas détruire la ville. Quand vous voyez là, également...
On parle de marchandage,
absolument. Et oui, c'est très dans la tradition, je dirais, de ces pays-là, de marchander de la sorte. Mais vous n'avez pas que cet exemple-là, vous avez des rois qui demandent une portion de vie supplémentaire qui leur est également accordée par Dieu. Donc, on voit que ce n'est pas à sens unique. Et j'aime aussi citer cet autre exemple qui est nettement moins... sacré, dirais-je, c'est un sketch en fait de Raymond Devos où il parle « Dieu existe, je l'ai rencontré », mais où il va également, lui, inverser la proposition en disant « L'homme existe, je l'ai rencontré ». Et en effet, je crois que c'est très important dans ce cadre-là, même si je ne déifie pas Jésus de Nazareth de façon outrancière, loin de là, mais il y a dans cette idée de la rencontre le fait qu'il doit y avoir nécessairement un donnant-donnant, que ce n'est pas à sens unique. Et c'est aussi ce qui fait la grandeur pour moi de ma relation à Dieu par le biais effectivement du message des prophètes et de Jésus, c'est que je suis un acteur. Je ne suis pas simplement une marionnette entre ses mains, je ne suis pas simplement appelé à exécuter un certain nombre de ses volontés, mais dans la vie de tous les jours, dans ce que je traverse comme expérience de vie, je suis appelé à effectivement avoir une démarche qui est... L'image, je ne la dois pas à moi-même, mais à un pasteur suisse, il faudrait que Jésus-Christ oblitère mes pensées, c'est-à-dire qu'il y ait ce filtre de la pensée de Jésus-Christ dans chacune des actions que j'entreprends. Et là, bien sûr, alors nous sommes vraiment dans le cadre de la rencontre permanente.
Évidemment, faire de chaque chrétien un acteur, ça pose vraiment la question, c'est une question fondamentale par rapport à la réalité de l'Église aujourd'hui. Et ça, une pensée me traversait l'esprit en me disant, mais quelle est la place de l'Église dans cette rencontre?
Alors, je pense que l'Église est, dans le terme même, une maison d'assemblée. Donc, ce n'est pas un lieu saint en tant que tel, c'est un lieu dans lequel un certain nombre d'hommes et de femmes se retrouvent pour vivre une relation interpersonnelle et également avec Jésus de Nazareth, qui est le centre, bien sûr, du message, d'où le terme de chrétien. Donc, l'Église a un rôle indiscutable à jouer, elle a un rôle de témoin, mais hélas, aujourd'hui, parfois, eh bien, nous sommes bien loin du compte. Et l'image de l'Église dénature parfois le message christique, ce qui est bien sûr dommageable. Mais nous devrions toujours avoir à l'esprit et réintégrer, je dirais, cette Église sur le plan humanitaire et social. L'Église est une Église au service, comme Jésus était également un homme au service de la communauté dans laquelle il vivait. Donc l'Église est beaucoup plus importante, je dirais, hors de ses murs qu'en ses murs. Elle est là aussi dans un processus de rencontre. Elle devrait être sur tous les théâtres de vie. Je me plais à imaginer un chrétien qui se révolte aujourd'hui, comme Jésus de Nazareth s'est révolté jadis, y compris contre les institutions religieuses de son temps.
J'entends bien, et en même temps je me pose la question de cette difficulté, souvent évoquée par les personnes que l'on rencontre, en disant « mais moi j'ai ma foi, je n'ai pas besoin d'église ». Or, je me pose la question aussi, on nous dit, en tout cas c'est écrit dans l'Évangile, à l'amour, c'est le Christ qui le dit, « à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples ». Manifestement, ce n'est pas si évident à constater, à observer, et même ni dans l'Église, ni dans les actes qui sont posés de manière globale par la majorité des chrétiens dans la société en temps ordinaire. Ça ne fait pas directement, on ne repère pas directement que les personnes qui agissent comme cela sont des disciples du Christ. Alors comment est-ce qu'on pourrait retrouver aujourd'hui ou redonner du sens et du corps à cette dimension-là ?
Oui, c'est un grand débat. Mais deux choses me sont venues à l'esprit pendant votre question. C'est d'une part que je trouve à la fois chez Nietzsche ou chez Mahatma Gandhi cette même pensée, si les chrétiens vivaient leur foi, il n'y aurait aucun doute sur la réalité de Dieu. En fait, c'est là le grand problème, c'est que nous ne reflétons absolument pas, hélas, trois fois hélas, cette réalité de l'amour de Dieu en nous. Et si nous étions des témoins plus conséquents, eh bien à ce moment-là, je pense qu'on ne nous interrogerait pas sur les tenants et les aboutissants de l'un ou l'autre dogme en particulier, mais nous serons tellement rayonnants que cette réalité de Dieu, eh bien, se verrait à l'œil nu, je dirais. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, nous ne sommes que des hommes, c'est vrai, mais nous pouvons vivre malgré tout de cette rencontre, et je dirais qu'il y a un certain nombre de témoins de Jésus de Nazareth qui montrent cela dans leur vie de tous les jours, d'où l'exemple de Schweitzer, d'où l'exemple de Martin Luther King, de Mère Teresa et de bien d'autres. Vous ne pouvez pas comprendre, je dirais, cela sans qu'il n'y ait au centre une rencontre forte avec ce personnage clé qui est Jésus de Nazareth.
Nous faisons une petite pause musicale et nous nous retrouvons tout de suite après. Vous écoutez RCF, la radio dans l'âme. Au micro, Vincent Tonon et Jacques Ostetter. Nous évoquons aujourd'hui la dimension de la rencontre avec le Christ dans la vie du chrétien. Et juste avant la pause musicale, eh bien, juste, nous parlions des conséquences que devrait entraîner cette rencontre. Quand on fait un petit peu le constat ou le bilan de la vie de nos églises, de nos communautés, les situations que l'on vit dans l'Église, le désarroi d'un certain nombre de chrétiens, est-ce qu'on ne pourrait pas dire rencontrer le Christ aujourd'hui, une rencontre manquée pour beaucoup ?
Oui, une rencontre manquée pour beaucoup, mais je voudrais...
Je ne voudrais pas être culpabilisateur en disant cela, hein, je pose la question simplement.
Une rencontre manquée pour beaucoup, mais je pense que là encore, il faut se rendre compte que dès les premières pages des Écritures, il y a des rendez-vous manqués, mais il y a toujours cette idée que l'on peut revenir à l'Éternel. Reviens Israël, reviens peuple de Dieu. Donc, l'alliance n'est jamais rompue parce que, si l'on fait la démarche nous-mêmes de retourner vers cela, eh bien, dans l'image justement des Écritures, lui, Dieu, est toujours prêt à nous accueillir. Il a toujours été à notre rencontre, et donc c'est à nous, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, c'est à nous d'avoir cette démarche de reconversion et de pouvoir nous retourner à nouveau vers lui. Mais ce qui est essentiel, je pense, dans ce cadre, c'est de voir notamment l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, contrairement à ce que l'on peut trouver dans le livre des Actes, où il y a un texte assez fort de sa conversion sur le chemin de Damas, quand il en parle lui-même, l'apôtre Paul, dans ses écrits, eh bien, c'est quelque chose, finalement, de relativement banal, sa conversion. Il n'en fait pas une grande histoire. Il dit simplement qu'il y a eu un moment, une prise de conscience, et que désormais, il ne veut pas lui-même se mettre en exergue, mais que la seule personne à laquelle il peut se référer est l'homme parfait, le Fils de l'homme, donc Jésus de Nazareth. Donc, même sa faiblesse, même les faiblesses de l'homme que nous avons évoquées ensemble il y a quelques minutes, eh bien, même ces faiblesses peuvent devenir un argument, en fait, par rapport à la réalité de Dieu qui, elle, est tout autre. Donc, c'est vrai à la fois que nous souffrons, je pense, de ne pas être à la hauteur du message qui nous a été donné, mais à la fois aussi, cela nous permet d'entrer dans tous les combats de l'humanité, auprès de toutes les personnes qui aujourd'hui œuvrent dans le même sens. Cela aussi me frappe beaucoup quand on parle de rencontre, quand on parle de cheminement. Eh bien, Jésus de Nazareth a eu aussi ces paroles qu'on lui attribue, ou quand d'autres personnes prêchaient dans le même cadre et que ses disciples se demandaient s'ils devaient intervenir pour les faire taire, eh bien finalement, Jésus laissait la parole à tous ceux et celles qui œuvraient dans le même sens que le sien. Et ça, je crois que c'est vraiment essentiel dans cette nouvelle ère qui s'ouvre à nous, c'est de pouvoir combattre avec toutes les personnes, quelle que soit d'ailleurs leur prémisse, mais de pouvoir combattre avec toutes ces personnes pour les rencontrer au nom de Jésus-Christ et progresser ensemble vers un monde meilleur, vers ce royaume de Dieu auquel nous tenons tant, j'espère, les uns et les autres, même si on les appelle simplement ces temps-là les temps du royaume.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Jacques Hostetter pour ce partage. Chers amis auditeurs, à très bientôt.